bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 5 août 2013, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour évoquer l'actualité internationale, nationale et éventuellement locale. Voilà, 5 août, c'est pas une raison pour ne pas informer le public de ce qui se passe dans le monde. Peut-être as-tu un sujet avec lequel tu penses que ce serait bien d'ouvrir ce journal, Robert?
Pas vraiment. Sinon, les bruits de bottes, comme on disait avant, maintenant, c'est les bruits silencieux des drones dans le ciel.
C'est les bruits de bottes et les bruits de babouches, maintenant.
Donc on nous fait depuis 2-3 jours une espèce de montée de tension sur les risques terroristes sur la planète. Tout ça orchestré par des Américains qui ne badinent pas avec les fermetures d'ambassades ces jours-ci.
Oui, on se demande si c'est de l'info ou de l'intox. En tous les cas, ça marche, puisque la France, l'Allemagne, l'Angleterre, pour ce qui est du Yémen, ont embrayé sur les Américains et fermé leur ambassade pour une semaine. Des attentats annoncés, peut-être. Est-ce que tout cela relève d'une politique de maintien de la pression au niveau des Occidentaux, des Américains en particulier, pour justifier un certain nombre de mesures et que de faire croire qu'il y a comme ça un danger et de l'agiter de cette manière-là? Ou est-ce qu'effectivement des choses étaient en préparation et bien connues? Ben, on le saura dans quelques jours de toute façon. En tous les cas, l'effet psychologique a joué à plein, puisque tous les médias relayent cette non-information, puisqu'il ne s'est rien passé.
Oui, ça permet de remettre en vigueur, si tant est que pendant cette période d'été, la vigilance des gardiens de l'ordre mondial capitaliste s'était un peu assoupie, que des lois existent pour sécuriser les citoyens honnêtes et de la planète, et que c'était donc un moyen d'y parvenir. Et on se souvient qu'il y a 3-4 jours, juste avant que se déclenche cette opération sécurité, les médias ont largement diffusé une vidéo de celui qui semble se revendiquer d'être le chef des djihadistes. On l'a vu, c'est tout juste si cette cassette n'était pas diffusée en boucle. Et c'était simplement, c'était même discours que d'habitude, c'est-à-dire c'était une menace, une mise en garde contre les intérêts occidentaux, mais sans plus que tout ce qui avait pu être dit et fait auparavant. Mais visiblement, on a su utiliser cette cassette pour déclencher l'opération que l'on observe un peu partout sur la planète. Et la deuxième chose, alors, est-ce que c'est une anecdote? Il semble que la décision américaine concernant les 20 ambassades a été prise par des sous-fifres. Enfin, c'est quand même les hauts gradés de l'administration sécurité aux États-Unis, parce qu'Obama était dans sa résidence privée d'été où il fêtait son anniversaire. Alors, certains de ses collaborateurs ont-ils voulu faire du zèle en plus de ce que pouvait être la réalité de la situation? Enfin, anecdote ou pas, mais ça laisse en même temps entendre qu'il y a toujours chez ces Américains ce besoin de réveiller la vigilance.
Voilà, la vigilance, ils l'ont vis-à-vis des Iraniens, et l'Iranien aujourd'hui, c'est M. Rabbani qui prenait ses fonctions et qui prêtait serment dans un faste diplomatique un petit peu inhabituel par rapport à ce qu'on a connu jusque-là. 10 chefs d'État étaient invités, 50 pays représentés par des dignitaires. Il a parlé de beaucoup de choses. Il n'a rien dit sur la guerre de Syrie et en Irak, sur les actions des chiites. Donc, il manifeste un peu de prudence. Et cela étant dit, il va présenter son gouvernement au Parlement. Et ses membres du gouvernement doivent un par un être acceptés par le Parlement pour que ce projet soit validé. Donc, suivre dans les prochains jours l'évolution de ce nouveau gouvernement qui va se mettre en place en Iran. Voilà, Iran, qu'est-ce qu'on peut dire?
On va faire une petite parenthèse. Simplement, si c'était possible de monter un peu la tonalité, parce que j'ai beaucoup de mal à te suivre.
Ah bon. Ça, on va essayer.
Oui. C'est obséricorde, mais il faut que les auditeurs et auditrices sachent comment c'est la technologie radiophonique.
Oui, ça marche pas mal, l'insert téléphonique. Il y a des moments, c'est un peu acrobatique quand même. On joue avec le Larsen.
Et là, je t'entends à peine. Oui.
Je m'entends à peine. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre? Ben, l'Afghanistan aussi, quelques mots, puisque la situation est toujours aussi instable, on a du mal à comprendre. 22 policiers tués dans des affrontements avec des talibans à la frontière pakistano-afghanistan. L'Afghanistan et du Pakistan. 76 morts annoncés du côté des talibans attaquants. Donc, toujours les affrontements qu'on retrouve en Irak aussi, d'ailleurs, puisqu'il y a des attentats à la voiture piégée qui ont fait pas mal de morts, encore d'une manière coordonnée, puisqu'une douzaine de voitures ont explosé quasiment en même temps. L'Égypte où la situation, là aussi, les partisans de l'ancien président sont mobilisés pour continuer à manifester en sa faveur. Et Al-Qaïda en profite, El-Zarawi, le dirigeant, pour proposer quant à lui de se débarrasser non seulement du gouvernement en place, les militaires, mais de la démocratie et de mettre à la place la charia. On peut penser que l'Égypte est vraiment dans une phase difficile parce qu'il y a une proportion de la population. C'est pas vraiment une minorité contre une majorité, c'est presque du 50-50 entre ceux qui veulent conserver le pouvoir islamiste et ceux qui, au contraire, veulent le renverser et laisser les militaires qui, pour le moment, gouvernent en sous-main, continuer à le faire. Voilà, tu avais d'autres infos. On peut parler aussi de la Turquie. La Turquie où ce jour, un procès arrive à son terme, un procès en long cours, 275 accusés. Hein. C'est une affaire qui date d'il y a quelques années. Un soi-disant coup d'État était préparé par beaucoup de monde, dont des militaires de haut rang. Et on arrive maintenant au moment où les condamnations tombent. Pas toujours d'ailleurs, puisque ce matin, au bout d'une heure de procès, il y avait 20 libérations. Mais il y a aussi des condamnations de 5 à 20 ans pour des militaires de haut rang. Alors, les observateurs politiques ont tendance à regarder ce procès plus comme une manière pour l'AKP de se débarrasser de son opposition que pour juguler réellement un coup d'État éventuel qui était en préparation par ce groupe de personnes, on va dire. Il faut dire que les militaires, depuis les années 60, en sont déjà à 3 coups d'État et que les gens de l'AKP se méfient beaucoup d'un quatrième retour des militaires par les mêmes méthodes que celles qu'ils ont déjà utilisées. Oui, je disais que c'était pratiquement une occasion de se débarrasser de l'opposition parce qu'on a vu, soi-disant impliqués dans le complot, en tout cas impliqués dans les accusés, à la fois des journalistes et des universitaires, dont il n'est pas évident que les revendications en termes de pouvoir, d'arriver au pouvoir par un coup d'État, soient vraiment leur objectif. Voilà, tu voulais parler d'autre chose, Robert? On a la Syrie, le Japon, le Zimbabwe, le Maroc, beaucoup de choses.
Oui, peut-être Et puis le Mali qui prépare son deuxième tour de l'élection présidentielle avec deux candidats. Finalement, la manipulation n'a pas permis de faire élire dès le premier tour le candidat favori des Occidentaux. Il faudra un deuxième tour pour ça. Bon, c'est un moindre mal. Mais ce qui est impressionnant, c'est que finalement, à part quelques opposants, il n'y a personne qui rappelle que beaucoup de gens n'ont pas pu voter simplement parce que tout a été préparé dans la précipitation et dans un temps très court, et que notamment sur la région parisienne, alors ça fait pas des millions d'électeurs, mais ça faisait quand même quelques dizaines de milliers d'électeurs et électrices maliens qui n'ont pas pu voter, faute de trouver des bureaux, faute de trouver leur nom sur des cartes. Donc c'est une élection pas des plus claires qui va se dérouler dans un deuxième tour, mais c'est le grand triomphe de François Hollande et de sa diplomatie quand même. Et de ce point de vue-là, on voit bien que toute la communauté occidentale et même, semble-t-il, les Africains sont pas trop mécontents de ce qui se passe et que la tactique Hollande va finalement avoir gain de cause. Ça, c'est pour le Mali.
Oui, pour ce qui est du candidat...
La Tunisie qui... Ouais, c'est pas rose, le printemps tunisien, finalement. Il y a cette enquête autour des assassinats de militants de gauche, un peu extrême-gauche. Assassinat qui serait le fruit pourri, mais le fruit d'un Français franco-tunisien, franco-algérien même, je crois, qui a rejoint Al-Qaïda et qui donc se balade avec une carte d'identité française et qui, semble-t-il, peut donc voyager assez librement. On le recherche. Alors, est-ce vraiment le cerveau de l'affaire? Ou est-ce que les très embarrassés, les islamistes au pouvoir à Tunis cherchent un peu des, non pas des boucs émissaires, mais cherchent à faire diversion autour de ces possibles assassins. Et cette Tunisie qui n'a pas d'armée, on nous dit qu'elle se livre à des puissantes actions militaires à la frontière algérienne pour détruire des camps de djihadistes. Alors c'est un élément nouveau, on ne sait pas ce que c'est. En plus, à la frontière algérienne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord entre Algériens et Tunisiens parce qu'il suffit qu'ils passent de l'autre côté et puis c'est fini, ils ne peuvent plus, et puis bon. Et puis on pense que là aussi, est-ce que c'est des groupes qui viennent de Libye? On sait que, avec des armes d'ailleurs vendues, achetées par des trafiquants libyens, les armes qui étaient celles de Kadhafi et qui sont aujourd'hui entre les mains de tout un chacun, de personnes et de tout le monde pour qui en a besoin. Voilà pour cette Afrique. Et si on descend un peu plus bas, effectivement, le Zimbabwe, alors c'est une élection là aussi, on dit que pas, qu'est loin d'être claire, voire sans doute pour partie truquée par l'impossibilité pour des gens de voter, parce qu'ils n'étaient pas inscrits, et puis peut-être qu'il y avait des morts qui ont voté, tout ça.
Bon. Elle n'était pas claire, mais elle est terminée quand même.
Le Zimbabwe, c'est, bon, en dehors de cet aspect. Peu démocratique au sens occidental, qui va faire que Mugabe à 89 ans va être réélu, et déjà pratiquement
réélu avec 61%
passe au premier tour. Mais il faut rappeler qu'aussi que le Zimbabwe, c'est un peu la dernière survivance en Afrique de ce qu'était le nouveau dispositif lié à la guerre froide et aux guerres de décolonisation et des guerres d'indépendance. Et le Zimbabwe, alors effectivement, c'est une créature bizarre, faite de corruption, faite de bureaucratie d'État, faite de quelques fait de quelques éléments de issus de cette période où les Africains ben, aussi regardaient ce qui se passait à l'Est, c'est-à-dire, par exemple, il y a encore un certain nombre de services publics qui subsistent au Zimbabwe et qui, dès que l'opposition va gagner, vont disparaître parce que là aussi, le capitalisme international n'a pas encore pu vraiment s'installer comme il le souhaiterait dans ce pays. Alors, bon, Mugabe, évidemment, c'est pas la démocratie telle qu'on l'entend, mais c'est aussi quelque chose qui, pour peut-être tout un petit peuple, veut dire quelque chose.
Et puis, cette affaire marocaine, il faut bien en dire un mot, ce couac, voilà ce qui arrive quand on cultive les rois dans les pays et qu'on les conserve. Hein. Guillotiner les rois, le monde sera plus beau. Faites comme les Français. Les petits-enfants espagnols n'avaient plus qu'à bien se planquer, mais il semble que l'individu qui avait été condamné pour 11 viols d'enfants, donc l'individu 30 ans de prison par les Marocains, une magouille entre une demande du roi Juan Carlos, il semble que cet individu était une barbouze de ses services secrets, accepté par le roi du Maroc, qui peut-être, c'est sa seule excuse, c'est ce qu'il a l'air de dire, n'avait pas regardé le dossier de trop près, faisant confiance à ses administratifs, ce en quoi il a eu bien tort. Voilà l'individu libéré et renvoyé en Espagne dans un sombre échange d'ailleurs de prisonniers, à la demande toujours de ces hauts personnages qui sont au-dessus des règles démocratiques. Mais enfin, à l'heure qu'il est ce soir, les choses ont l'air de se recadrer un peu, puisque l'individu en question, libéré en Espagne, a été attrapé. Et il se pourrait donc que la justice espagnole poursuive la condamnation que les Marocains lui avaient infligée. Enfin, ça engendre en tout cas, au-delà de l'anecdote, beaucoup de remous au Maroc. Alors, est-ce que les gens se mobilisent autour d'un sujet comme ça? Parce que c'est pas possible de se mobiliser autour de sujets vraiment politiques qui remettent en cause la direction du royaume de la manière dont elle est faite, et qu'il profite un peu de l'événement pour manifester. Il est surprenant, en tout cas, de voir l'ampleur que ça a pris. Il y a toujours des manifestations à Casablanca et à Meknès de prévues. Bref, c'est un beau couac que le roi du Maroc s'est offert là.
Enfin, ceci dit, oui, comme tu l'as signalé, il y a la thèse selon laquelle ce serait une barbouze. Et finalement, les Espagnols l'arrêtent pour le mettre en sécurité, pour le faire disparaître, pas physiquement, naturellement, mais c'est-à-dire qu'on va changer son nom, on va lui teindre les cheveux, lui faire pousser une barbe, et puis peut-être quelque chose comme ça. Hein.
Donc ah, c'est à suivre.
On attend de voir si les Espagnols vont prolonger le jugement apporté par les Marocains.
Voilà.
C'est toi qui m'en avais parlé. Hein. Moi, je n'étais pas au courant. Je crois que tu, hors antenne, tu évoquais la mort du fondateur de Citoyen du Monde. Et effectivement, oui. je me suis rendu compte que ce nom m'avait même échappé.
Ben, c'est-à-dire, les plus jeunes, en fait, t'es comme moi, t'en es pas vraiment, mais on connut Gary Davis dans les années 50-60, puisque cet individu, après un parcours un peu compliqué, hein, il avait, pendant la guerre de 40, il avait conduit des bombardiers, et ça l'avait quand même traumatisé, l'idée qu'il avait tué pas mal de gens en larguant ses bombes sur l'Allemagne. Combien d'hommes et d'enfants ai-je assassiné? Du coup, il a fait rédemption, puis il s'est lancé dans une grande aventure de citoyen du monde. Il a voulu créer la citoyenneté du monde, et pendant un certain nombre d'années, il a animé ce mouvement pacifiste. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisqu'un de ses derniers axes a été des citoyens du monde, il en a créé des passeports de citoyens du monde, à peu près 1 million. Hein. Et un des derniers qu'il a délivré, c'était justement à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, quand il s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. après ces histoires donc avec les révélations sur les emails des Américains. Donc on voit qu'il a continué comme ça, et puis son mouvement a été repris et soutenu par des tas de gens, hein, en son temps, Einstein, Roosevelt, Camus, Schmitt et d'autres. Et puis ben voilà quoi, il était né en 1921, il est mort aux États-Unis le 24 juillet.
Oui, je lisais bon, c'est pas une charte, c'est une phrase. Quand on adhère à Citoyens du Monde, on s'engage à faire passer les intérêts de l'humanité avant les intérêts de son propre pays. Ah, c'est intéressant à l'heure où actuellement tout le monde est réfugié dans le nationalisme à tout craint. Bon, ceci dit, c'est une phrase, on peut en faire ce qu'on veut, hein, l'humanité, c'est quoi alors, les citoyens du monde, effectivement, envisageaient, enfin je veux dire, ça faisait partie de ses propositions, de créer un gouvernement mondial, mais fédéral, qui aurait effectivement capacité de gérer les intérêts de l'humanité. Bon, c'est une utopie. Et puis certains diront, mais non, c'est beaucoup trop dangereux, parce que un gouvernement mondial, c'est un gouvernement totalitaire. Donc c'est le débat là-dessus, il existe aussi. Hein. Bon, on voit l'ONU, qui n'est pas un gouvernement, mais elle fait autant d'erreurs que de bienfaits.
Alors, deux nouvelles internationales un petit peu écologistes, si on peut dire, ben, des nouvelles de Fukushima au Japon, parce que d'une part, ils ont eu un séisme de magnitude 6 ce dimanche, apparemment, c'est ce qu'on dit toujours au début, en tout cas sans conséquences, mais à voir. Et puis d'autre part, de temps en temps, on nous distille les infos. On n'a jamais douté que Fukushima continuait, on l'avait dit depuis le premier jour d'ailleurs, d'être une calamité monstrueuse et que tous les jours son lot d'aggravation de la situation en termes de pollution nucléaire. Alors là, la dernière nouvelle, c'est d'annoncer qu'il y a des milliards de becquerels dans le Pacifique. Ben évidemment, l'eau polluée de radioactivité, où voulez-vous qu'elle aille ? Elle ne va pas remonter dans les nuages, hein, elle va forcément dans l'océan. Donc on peut penser que toute cette zone qui est autour et qui va aller s'élargissant va être pollué par le nucléaire, et ça continue, et on ne s'est toujours pas arrêté, enfin le séisme n'est pas terminé. Puis autre nouvelle internationale un peu écologiste, c'est le Canada. Vous avez peut-être suivi cette histoire assez absurde et incroyable d'un train extrêmement important qui s'est mis à dévaler une dizaine de kilomètres pour aller s'éclater dans une ville avec du carburant. On ne sait pas bien d'ailleurs comment ce train a pu démarrer tout seul, mais bon, peu importe. Il y avait 7 millions de litres de pétrole qui sont répartis, qui ont explosé, entre autres qui ont envahi les rues, les canalisations, donc ça a foutu le feu dans toute la ville par les égouts. Et puis en plus, la compagnie qui va fréter ce transport, la MMA, refuse de reconnaître ses responsabilités, allant même jusqu'à refuser de payer les gens qu'elle a embauchés pour travailler à la dépollution. Décidément, on a beaucoup de choses à faire encore. Voilà, rubrique européenne, ben, il semble que tous les Européens soient en vacances, en tous les cas le gouvernement français l'est depuis vendredi. Ou bien que les autres aussi, du coup, on n'a pas récolté grand-chose. Peut-être toi, tu as quelque chose, Robert, non ?
Simplement souligner le courage des Bulgares qui continuent jour après jour de manifester contre l'austérité, contre la corruption dans leur pays. Et on se souvient que la Bulgarie avait ce particularisme d'être le dernier pays qui est sorti de l'Union soviétique, enfin disons des satellites de l'Union soviétique, avait un gouvernement assez original, avait Todov qui était son président communiste, et cette Bulgarie semble effectivement vouloir aussi résister à l'austérité telle que l'Union européenne veut la lui imposer. Et puis le dernier point, je voudrais me poser peut-être, lancer un appel pour qu'on commence à stocker des tonnes et des tonnes d'oranges que les uns les autres feront porter à Berlusconi quand il sera encabané. Mais c'est pas demain la veille, hein, je crois.
Non. Allez, petite pause musicale, on va la faire en hommage à Gary Davis, tiens, pendant qu'on y est, avec un plus ancien que lui dans le même registre, c'est Gaston Couté, mis en musique par Jeanne Garraud, interprété par Rémi Garraud, c'est donc une création dans le dernier CD de Rémo Gary. Le texte s'appelle « La chanson des fusils ».
Nous étions fiers d'avoir 20 ans pour offrir aux glèbes augustes la foi de nos cœurs éclatants et l'ardeur de nos bras robustes. Mais voilà qu'on nous fait quitter notre clair sillon de bonté pour nous mettre en ces enclos ternes que l'on appelle les casernes. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé. On a mis des outils de haine aux fusils qu'on nous mit en main. Fusils qui tuerez-vous demain. Notre front qui ne s'est baissé encore que par devant le terre bouge en sentant sur lui peser la discipline militaire. Mais s'il bouge trop notre front, combien d'entre nous tomberont par un matin de fusillade sous les balles des camarades. Nos yeux regardent sans courroux les gars dont les tendresses neuves s'essaiment en guerre rendez-vous là-bas sur l'autre bord du fleuve. Mais un jour de soleil sanglant, à combien de pauvres galants, ayant un cœur pareil au nôtre, coucherons-nous dans les épôtres. Nous trinquons dans les vieux faubourgs avec nos frères des usines, mais si la grève éclate un jour, il faudra qu'on les assassine. Hélas, combien les travailleurs auront-ils à compter des leurs sur les pavés rougis des villes après nos charges imbéciles. Mais en nos âmes de 20 ans gronde une révolte unanime. Nous ne voulons pas plus longtemps être des tâcherons du crime. Pourtant, s'il faut encore avant de jeter nos armes au vent, lâcher leurs décharges terribles, nous avons fait choix de nos cibles. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé. Puisqu'on vous tient fusil de haine, tuez s'il faut tuer demain ceux qui vous ont mis en nos mains.
Gaston Couté donc pour les paroles, hein, les années 1900, Jeanne Garraud pour la musique, les années 2010, et Rémo Gary pour l'interprétation, donc la chanson des fusils. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, ce Canu Info du 5 août 2013, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex pour aborder la rubrique nationale qui n'est pas hyper chargé, vacances politiques aidant. Ben d'ailleurs, justement, vacances politiques, vendredi, c'était le dernier Conseil des ministres. Alors, comme on a un gouvernement qui travaille beaucoup, je ne sais pas s'il travaille bien, ou qui veut le faire voir et savoir, où il a reporté le dernier Conseil des ministres du mercredi au vendredi, et du coup, il en a profité pour passer dedans un truc un peu douloureux pour certains, l'adoption du plan de financement des armées pour les années à venir, avec la suppression de 34 000 emplois. Qui sait qui va pleurer sur 34 000 militaires de moins, pas nous en tout cas, 23 500 au titre de la nouvelle loi et 10 000 qui étaient déjà prévus. Alors il y a beaucoup d'administratifs là-dedans et puis de la réorganisation, mais enfin on sait faire confiance aux États quand ils ont besoin soudainement de militaires, ils savent les trouver. Des soucis pour les marchands d'armes et les marchands d'avions, ben c'est Dassault qui aura droit à 26 rafales commandées sur 5 ans, ça fait 5 par an. Sa capacité de production normale est de 11, donc il lui faut trouver quelque part où les vendre. Il regarde du côté de la Malaisie et d'autres pays où il pourrait placer ses armes de guerre. Au Mali, ben oui, on a besoin d'armement aussi, en particulier de drones. Et là, on a prévu des investissements pour la France en matière de ce type de matériel qui, jusque-là, a été un petit peu négligé par l'armée française. Voilà, vous avez des nouvelles des militaires. Je ne suis pas sûr que ça vous enrichisse beaucoup. Mais enfin, vous avez le droit de savoir où passent vos impôts, votre TVA et tout ce que vous payez comme taxes à droite et à gauche. Et qui ne passe pas seulement dans les prestations sociales, comme on nous le ferait volontiers croire si on écoutait certains politiciens. Robert, oui, avais-tu un autre sujet plus intéressant encore?
Parmi les bonnes nouvelles, c'est tous les profiteurs de la bourse qui vont bientôt envoyer des messages de félicitations à Hollande parce que le CAC 40 a franchi la barre des 4000. C'est drôle parce que les 4000, on se souvient, c'est les bars dans les banlieues parisiennes. Il y avait des logements comme ça, les 4000. Mmh. Mais là, la bourse a franchi les 4000 et ça ne lui était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Et donc c'est un Hollande qui va partir heureux en vacances, ayant effectivement bien rempli son rôle auprès de ceux qui, à travers les grandes entreprises du CAC 40, font tourner ce qui reste de croissance et peut-être l'accélère. C'est ce qu'il dit lui-même, Hollande, en disant que la crise est derrière et que donc maintenant c'est la croissance qui l'attend. Il va tranquillement en surveiller les prochaines étapes. Depuis la lanterne, on en avait parlé de cette lanterne, c'est ce pavillon qui est dans l'enceinte de Versailles, parc de Versailles.
Napoléon l'utilisait déjà.
Sarkozy, au tout début de son quinquennat, s'était réfugié. Bon, d'ailleurs, il a très vite abandonné, on ne sait pas pourquoi, bon, peu importe d'ailleurs. Et donc Hollande, pour être à proximité de l'Élysée, va être pendant 2 semaines à la lanterne et va pouvoir ainsi travailler et puis surveiller les ministres qui auraient tendance à vouloir s'éloigner et prendre des vacances qu'ils jugeraient abusives. Voilà pour les affaires vont, enfin pour un certain nombre de gens.
Puis ça déborde de la bourse.
C'est loin d'être le cas pour la majorité du peuple.
Ça déborde de la bourse, puisqu'on apprend aussi qu'il y a des levées de fonds qui sont demandées. Le pognon coule à flot en France actuellement, du côté de ceux qui en ont, puisqu'en dehors de la bourse et du CAC 40, Numérica, Bolloré avec ses bagnoles électriques, l'SFR et autres cherchent à lever 500 millions d'euros pour se financer, donc en dehors de la bourse et du CAC 40.
Le cas de Notre-Dame, de cette Notre-Dame, et puis ce côté religieux peut être surprenant de toujours le mettre en avant. Bon, on va pas faire dans l'athéisme de bas étage, mais on préférera dire aéroporte, la bataille d'aéroporte. Sur lequel cette bataille qui en était à un nouveau très important rassemblement samedi et dimanche. On attendait plusieurs dizaines de milliers, les structures étaient grandioses, aussi bien sur le plan festif que sur le plan de la discussion, de la défense, d'un territoire que les gens disent ce territoire doit rester non pas un territoire de béton, mais un territoire de bocage. Ça commence par la même lettre, un B, mais du bocage oui au bocage et non au béton. Et béton des pistes d'envol et de tout le reste. Alors ce que l'on sait, mais sur les chiffres, alors selon, comme on dit toujours, selon les organisateurs ou selon la police, ça varie de manière assez importante. Sur les deux jours, alors 15 et 25, ça ferait 25, 35, 40, peut-être 50 000 sur les deux jours, 50 000 personnes pour selon les organisateurs, et puis la moitié, même moins, selon la police. Bon, je ne sais pas, j'ai pas lu ce qu'en pensent les organisateurs, s'ils pensent que c'est une réussite. Nous, les anciens du Larzac, on était plus nombreux au Larzac, mais peut-être qu'il y en était 100 000 au Larzac.
C'était plus au sud. Hein.
Là, bon, et ceci dit, il faudrait pouvoir comparer ce qui est comparable. Le deuxième point qui n'est pas du formalisme, mais on a pu observer, et moi personnellement je l'ai fait, un blackout, pour ne pas dire une censure organisée, dans l'audiovisuel. Alors, j'ai pas vu la presse écrite ce matin, peut-être qu'elle a fait ça, elle a fait honnêtement son travail par rapport à ce rassemblement. Mais la presse audiovisuelle, elle, ne l'a pas fait. On a eu pratiquement aucune information pendant les deux jours. On a même eu des informations incroyablement ridicules. Ainsi, France Info a diffusé dimanche soir, c'est-à-dire à la fin de la deuxième journée, un message qui était comme la présentation de ce qui allait se passer le samedi et le dimanche. On appelle ça en jargon journalistique un avant-papier qui naturellement aurait dû être diffusé vendredi soir ou samedi matin ou plus tard, parce qu'effectivement il parlait au futur, il disait ce qui allait se passer, tous les enjeux, tout ça. Bon, voilà où en est France Info quand il s'agit de censurer, et c'est pas la première fois sans doute. Alors qui a donné les ordres? Est-ce que là encore on a des opérations de zèle? Est-ce que les éditorialistes des médias audiovisuels sont en vacances et donc les sous-fifres n'ont pas voulu prendre de risques en se disant oh là, il faut y aller mollo parce que ça, on touche aux affaires du gouvernement et on ne veut pas d'ennui. On ne veut pas d'ennui. Voilà, on retiendra cette conception du parapluie ouvert.
Ouais, et puis...
Voilà, sinon, on peut dire que la bataille sur la retraite, c'est-à-dire le dossier qu'a déjà ouvert le gouvernement avec les patrons et avec les syndicats, eh bien, il va dès le début septembre s'ouvrir encore plus largement. Et par exemple, les forces opposées aux réformes, alors qu'elles soient politiques, gauche de gauche, ou syndicales, CGT, Faux et d'autres, Sud, déjà, ont fixé un rendez-vous le 10 septembre, bon, c'est-à-dire dans un mois, on n'en est pas là. Mais pour faire un 10 septembre qui réussisse, il faut effectivement que ça se prépare un petit peu à l'avance. Et il est un mouvement qui est en pointe, comme il l'était déjà dans la première bataille des retraites, il y a 3 ans maintenant, c'est Attac et Copernic, qui ont déjà tout un programme de à la fois sur le plan de la discussion idéologique, de l'alimentation, des propos, des campagnes à mener, sont tout à fait prêtes à démarrer dès la fin de ce mois. Qu'est-ce que je pouvais aussi signaler? Les suicides dans le cadre des privatisations, des découpages, des réorganisations se poursuivent. Cette fois-ci, c'est un ingénieur de la Poste du côté d'Orléans qui s'est suicidé. Il avait 56 ans. C'était plus tenable. Il ne sait plus où l'on était, ce qu'on attendait de lui et ce que lui savait faire, et que, semble-t-il, ça n'intéressait plus personne. Et donc, il n'arrivait même plus à avoir la volonté d'aller au travail. C'était plus possible. Eh bien, voilà. Il s'est suicidé.
Je voulais reprendre la parole peut-être sur les OGM, tu sais, il y a l'histoire du moratoire, c'est-à-dire le moratoire est en place et puis l'Union européenne a de nouveau fait savoir que il n'y avait pas de raison de s'opposer à Monsanto. Et Hollande, dans une belle déclaration, pour le moment ça ne lui coûte rien de plus, dit que lui, de toute façon, n'accepterait pas la remise en cause du moratoire français. Donc à suivre. Et puis samedi, il y avait cette manifestation contre les gaz de schiste en Seine-et-Marne, à Jouarre, puisque là-bas, dans cette ville, il y a des permis qui sont toujours en place et que les industriels exploitants des gaz de schiste souhaitent remettre en route au plus tôt, quoi. Et je terminerai en disant que EDF, avec ses augmentations de 5% pour pérenniser le nucléaire, se moque bien du monde. Et on voit là la honte de la privatisation. Et on nous justifie une augmentation du courant qui est déjà abominablement cher par soi-disant une augmentation de la sécurité dans les centrales qui serait à mettre au crédit de la population parce que sans quoi les profits d'EDF ne seraient pas suffisants. Bon, Robert, je te redonne la parole. Je ne sais pas si tu m'entends.
Le PC aussi, à travers Charrèche, oui, ont rendu hommage aussi à ce personnage qui était un destructeur de la petite paysannerie, un partisan, quoi qu'il en dise, de l'agriculture intensive. Voilà, c'est des choses drôles à propos d'agriculture. On dira que... c'est le Conseil d'État, oui, je crois, c'est le Conseil d'État qui dit que on doit autoriser la culture de l'OGM.
Oui, je viens d'en parler.
Monsanto.
Je viens d'en parler.
Tu as lu ça aussi quelque part, peut-être.
J'ai traité le sujet juste avant déjà.
Ah, tu l'avais. Bon, d'accord. Alors, on n'y revient pas, c'est fait.
On parle d'Avignon un petit peu, non?
Pardon?
On parle d'Avignon. T'as encore d'autres sujets avant?
Oh, oui, tu veux faire... J'avais encore une dernière nouvelle économique qui n'aime pas à commenter. Je ne sais pas si tu l'as fait. C'est qu'au 1er août, qu'on paye l'électricité plus cher.
J'ai commenté aussi.
D'accord. Sur le plan politique, je signale en passant que, comme on a un peu de temps, et surtout peut-être ceux qui ont encore le triste privilège pour gagner leur vie et d'être aliénés au salariat, mais qui sont en vacances, de lire la dernière production du Monde diplomatique, c'est le numéro d'août, avec une une sensationnelle, puisque à gauche de la une, ça commence par un titre, c'est Evo Morales qui parle, il dit « Moi, président de la Bolivie, séquestré en Europe », et il raconte en long et en large cette fameuse histoire quand on l'a empêché de survoler la France avec son avion au prétexte qu'il pouvait avoir Edward Snowden dans cet avion. Mais de toute façon, c'était effectivement une action quasi policière, internationale, illégale, et donc il raconte tout ça, c'est très intéressant. Et puis, dans cette une du Monde diplomatique, on a toujours... alors là, c'est l'autre partie de la droite, c'est le débat sur faut-il ou non sortir de l'euro. Et c'est un débat d'ailleurs très 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 intéressant, lancé par quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ce débat. Il n'est pas le seul, c'est Frédéric Lordon, et là aussi il faut lire Frédéric Lordon, et qui pose avec un point d'interrogation, même s'il pense, on a l'impression que lui, il pencherait plutôt pour, contre une austérité à perpétuité, faut-il sortir de l'Europe? Alors il dit, bon, si on nous propose une autre politique que l'austérité, on peut peut-être rester dans l'Europe, mais pour ça, les conditions ne sont pas celles que l'Europe ni Hollande actuellement revendiquent. J'avais aussi comme citation de lecture, c'est dans l'Humanité de vendredi, samedi, dimanche, une tribune, enfin c'est un entretien avec Isabelle Garot. Alors moi j'avais déjà eu l'occasion, et peut-être toi aussi, de l'entendre, elle est des fois intervenue sur France Culture, mais aussi dans ses bouquins. Isabelle Garot, c'est une philosophe politique marxiste, et elle rappelle que les analyses et les institutions de Marx restent pertinentes. Et puis, alors, faisant le rapport à la philosophie, elle dit la philosophie revient sur les mutations idéologiques de la dernière partie du XXe siècle pour mieux comprendre la période actuelle avec la pertinence d'un marxisme en mouvement. Donc, retour, liaison, ben, c'est le lien entre la pensée et la praxis, et puis le marxisme et la philosophie. Voilà, des bonnes lectures. Hein,
sympathique, j'apprécie
tu
pas toujours.
La question, j'enchaîne, hein, puisque tu avais posé la question sur Avignon, mais peut-être un mot pour... effectivement, bon, on rappelle que... D'ailleurs, je crois qu'on peut toujours trouver l'émission que nous avions faite sur le blog de Canut, sur Avignon, notamment le Festival Off, mais plus largement le Festival, les festivals qui effectivement se sont terminés il y a quelques jours avec des bilans satisfaisants sur le plan quantitatif. Bon, sur le plan qualitatif, c'est toujours là, les débats, les questions, les discussions sont ouvertes. Le bilan IN, donc le bilan officiel, bah, il fait du plus 5%. Il a eu 140 000 entrées, c'est-à-dire c'est plus de 90% des possibilités de placement. Le OFF, lui, il a vendu 10% de cartes. Vous savez comment ça fonctionne, on achète une carte et avec ça on a 30% de réduction dans les offres. Et il avait vendu, c'était même avant la fin du off qui se terminait le 31, il avait déjà vendu le 28, 10% de cartes de plus, autour de 52 000 cartes, ce qui représente, c'est énorme, beaucoup de gens avec une carte vont au spectacle, il y a ceux qui vont même sans carte, et qui ont des tickets, donc on en connaît le nombre, et qui ont dit qu'il y a entre 5 et 600 000 personnes qui fréquentent les spectacles du off. Voilà, bon, c'est des chiffres. Ça serait bien que peut-être nos camarades à Lyon qui feront des rubriques culturelles réunissent quelques-unes des compagnies qui étaient à Avignon pour discuter avec elles, et pour qu'elles donnent leur point de vue sur le festival OFF, qui est le seul lieu où les petites compagnies peuvent trouver le moyen de s'exprimer.
Alors, moi, j'avais quelque chose à ajouter, parce que j'ai lu le petit papier du Monde de jeudi là, sur le bilan du OFF, et je suis un peu atterré de voir que le OFF... on est réduit à décerner des prix. Alors, il y a le prix du public, il y a le prix du compte, il y a le prix de la musique-concert, il y a le prix de... Et du coup, eh bien, quoi, c'est la soirée des Césars ou quoi? Moi, j'ai toujours pensé qu'en matière artistique, les tiercés n'avaient pas leur place. Il faut laisser ça pour les courses aux Indes, c'est très bien. Mais qu'en matière artistique, on ne va pas transformer le Festival d'Avignon en une immense compétition où il va falloir être le premier. C'est d'un ridicule absolu et qui va complètement à l'encontre de l'esprit d'Avignon tel qu'il avait été imaginé. Voilà, les dérives quand il y a trop de succès, trop de pognon, on veut toujours en faire plus et on instaure comme ça un système de prix qu'on multiplie d'ailleurs à la danse, le machin, on en fout un paquet, comme ça tout le monde ou presque aura un petit quelque chose, quoi. Voilà.
Là, ça, comme il y en a 1200, ça ne va pas être possible. Mais effectivement, sur le fond du principe, ça serait une catastrophe que ce système s'institutionnalise. Et comme tu dis, je pense qu'il va être qui va être combattu par les compagnies elles-mêmes, que l'institution du HOF
en tous les cas,
résistera à cette tendance.
On a le palmarès dans la presse pour le moment.
Hein. Oui, je l'ai cherché sur Internet. Il n'a pas été envoyé par le service de presse. Par contre, je pense que sur le site du HOF, on doit le trouver.
Voilà, on est un petit peu au bout de ce journal ou tu avais encore quelque chose à ajouter? Sinon, on finit en pause musicale.
J'avais épuisé mes forces en cette période estivale.
On va essayer de les renouveler pour la semaine prochaine.
Aïe, ça va être dur.
Non, il va se passer plein de choses d'ici là, tu vas voir. Pour l'heure, donc, je vous invite à... Ben, on va se quitter en musique avec la musique de qu'est-ce que j'avais choisi? J'ai pas mis là. En tous les cas, ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Si vous le souhaitez, vous pourrez le retrouver sur le blog de Radio Canu. Et ne quittez pas.
Il faut peut-être que tu dises tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être nous quitter.
Oui,
que
tout de suite,
là, on rend hommage à Henri Allègue, ce combattant anticolonialiste et qui est décédé récemment. Hein.
Oui,
je crois que c'est ça que
24, 27 juillet, là j'ai plus sous les yeux, enfin fin juillet, Henri Allègue est décédé, il s'était fait connaître, enfin par beaucoup de choses, mais enfin je ne vais pas en dire trop puisque l'émission est justement là pour le présenter. Il a été le directeur de Alger Républicain, il s'est fait arrêter, torturer, il a fait un document où il racontait les malfaisances des para-fascistes français. Et puis tout le reste de sa vie, puisqu'il n'en est pas mort, il a bien failli, mais bon. Et il a œuvré contre le colonialisme, pour la paix, pour la réconciliation franco-algérienne. Donc une émission, d'ailleurs deux émissions, parce que la semaine prochaine, ce sera la suite et la fin, qui est consacrée à lui, avec la lecture intégrale de son ouvrage, La Question. Nos auditeurs qui ne pourraient pas l'entendre pourront aussi retrouver sur le blog de Vendémiaire après ce document sonore. Bonne soirée à l'écoute de Radio Canu et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Summertime.